VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, a voté mardi la levée de l'immunité de Gabriel Kyungu-Wa Kamwanza, dirigeant d'un parti d'opposition accusé d'outrage envers le président Joseph Kabila. La justice avait demandé cette levée d'immunité afin de pouvoir poursuivre le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, accusé d'avoir insulté le chef de l'État dans un enregistrement jamais rendu public et dont M. Kyungu-Wa Kamwanza conteste l'existence. Maître Sonville Mukendi, le porte-parole du Rassemblement des forces acquises au changement et avocat de Kyungu-Wa Kamwanza, fustige l'attitude du pouvoir congolais.
Il a été dit que le procureur possédait un élément sonore, attestant effectivement que l'honorable Kyungu-Wa Kamwanza aurait offensé le chef de l'État. Il a été convenu de toutes les deux parties qu'il faudrait que le procureur général puisse mettre à disposition de cette commission cet élément sonore pour qu'on puisse statuer. Et jamais cet élément sonore n'a été mis à disposition de cette commission. Nous posons mille et une questions sur base de quels faits, sur base de quels éléments qui se sont réunis pour lever l'immunité de notre honorable Kyungu-Wa Kamwanza. La levée de l'immunité a été demandée par le procureur général du Katanga de Lubumbashi.
Et toujours en RDC, les populations attendent la signature d'un projet d'accord devant sanctionner les travaux du dialogue de la dernière chance ouvert le 8 décembre dernier sous l'égide de l'Église catholique pour une solution de sortie des crises. En principe, la Conférence épiscopale nationale du Congo prévoit pour ce vendredi 30 décembre la signature en question. En Centrafrique, le président déchu François Bozizé, depuis son exil au Kenya, a récemment lancé l'idée d'un forum de réconciliation nationale en vue de trouver des solutions à la crise qui secoue le pays depuis 2003. Une proposition que le gouvernement ne prend point au sérieux, estimant que François Bozizé, sous le coup d'une sanction onusienne, fait l'objet d'une poursuite judiciaire dans son pays. Mais pour Joseph Benduka, le leader du MDREC, un parti d'opposition, la présence de François Bozizé est souhaitable à ses assises, dans la mesure où c'est un fils du pays. On écoute Joseph Benduka.
Tous les Centrafricains sont appelés à débattre de leur pays, sauf si Bozizé doit répondre devant la justice. Mais à ce que je sache, Touadéra a co-géré la République Centrafricaine jusqu'à un mois et quelques jours. C'était l'accord de Libreville qui l'a relevé de ses fonctions. Si Bozizé doit aller devant la justice, mais Touadéra, premier ministre, chef du gouvernement, pendant cette période-là, doit aussi répondre de cela. Donc je ne pense pas que c'est seulement Bozizé qui doit répondre devant la justice centrafricaine. Mais Touadéra, 5 ans durant, était premier ministre de Bozizé. En ces temps-là, il y a eu l'avènement de la LRA, celle de la SELECA. Il est co-acteur de la crise centrafricaine, tant comme les chefs rebelles que Bozizé.
Joseph Benduka, président du MDREC, Mouvement démocratique pour la renaissance et l'évolution de la Centrafrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Rétrospective 2016, les points saillants maintenant de l'actualité au Togo pendant l'année qui s'achève avec notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
2016, une année post-électorale au Togo, donc moins mouvementée sur le front social et politique, même si en cette fin d'année, la grève des enseignants qui secoue le monde éducatif togolais n'a pas encore trouvé un terrain d'entente entre l'État et les grévistes. 2016 a été une année très diplomatique pour le Togo. Le pays a débuté cette année qui s'achève en honorant ses fils et filles de l'extérieur à travers l'événement Réussite Diaspora. Les Réussites Diaspora sont des distinctions honorifiques qui priment le travail de la diaspora togolaise. Claude Gruneski, cofondateur du groupe médiatique Trust, fait partie des 7 lauréats de la première édition.
Le plus important, c'est d'insister sur la transmission de savoir, d'expérience et de connaissances.
3 mois plus tard, le printemps de la coopération germano-togolaise s'est tenu à Lomé pour renforcer sur le plan économique les liens historiques entre l'Allemagne et le Togo. Le Togo a brillé sur le plan continental en organisant en octobre dernier le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. Une session qui a été couronnée par l'adoption et la signature de la charte de Lomé sur la sécurité maritime. Idriss Déby Itno, président en exercice de l'Union africaine.
Je voudrais vous remercier et féliciter pour votre sage et consensuelle décision d'adopter et de signer la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement.
Pour cause de ce sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, la rentrée scolaire prévue pour le 26 septembre a été reportée au 17 octobre, soit au lendemain du dit sommet. Un report qui n'a pas été du goût des parents d'élèves. Laïssou Koko Géraldo, président du comité des parents d'élèves des écoles privées laïques du Togo.
On ne s'y attendait pas, 3 semaines c'est trop. Et surtout que les raisons n'ont pas été clairement évoquées. Les enfants, pratiquement depuis mi-juin, sont à la maison. Et vous savez, quand les vacances durent trop, il y a les conséquences qui s'en suivent.
L'une des situations qui a ému le Togo en 2016 est le décès de la Togolaise Amélie Sizing au Liban, dont le corps a été rapatrié le 15 novembre dernier. Des Togolaises immigrées professionnelles vivent l'enfer dans des pays du Golfe, à en croire le témoignage de cette victime.
J'étais au Liban. J'ai fait Liban-Koweït, mais le Koweït, c'est plus dur que tout. C'est le travail, esclavage.
Sur le plan sportif, après près de 3 ans de suspension du championnat de football de première division, le ballon a repris par rouler sur les différentes pelouses depuis le 11 septembre. Une promesse de campagne de l'actuel président de la Fédération togolaise de football, Guy Kossi-Akpovi. L'autre promesse faite par l'instance dirigeante du football togolais était la qualification des éperviers à la Coupe d'Afrique des Nations CAN-Gabon 2017. Henri Diagba, directeur de campagne.
Nous avons raté le mondial. Inch'Allah, pour les 4 ans que nous avons devant nous, nous allons aussi qualifier l'équipe portugaise pour cette phase du monde.
L'année 2016 s'en va. Les Togolais attendent le traditionnel discours du président de la République à l'orée de la nouvelle année pour d'éventuelles annonces. Les syndicalistes demandent déjà l'ouverture du dialogue social. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Une trentaine de combattants de Boko Haram de la région de Diffa, dans le sud-est du Niger, ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités nigériennes, a annoncé Bazoum Mohamed, le ministre nigérien de l'Intérieur. C'est la première fois que les autorités nigériennes font état de désertion des ressortissants nigériens des rangs de Boko Haram qui mènent des attaques meurtrières depuis février 2015 contre le Niger. Ces jeunes pourront bénéficier d'une amnistie et, avant de regagner leur famille, ils bénéficieront d'un programme de déradicalisation. En Tunisie, une réunion ministérielle se tiendra demain, jeudi, autour du chef du gouvernement Youssef Chahed, afin de définir un plan d'action face à la menace que représente le retour de milliers de djihadistes tunisiens dans leur pays. La Tunisie est l'un des principaux pays touchés par le fléau, avec 5 500 ressortissants ayant rejoint les rangs d'organisations djihadistes ces dernières années, selon l'ONU, et le débat public sur la perspective de leur retour s'est récemment emballé.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La Turquie et la Russie se sont entendus sur un accord de cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur à minuit dans toute la Syrie, a annoncé aujourd'hui l'agence pro-gouvernementale Anadolu. Le plan vise à étendre le cessez-le-feu instauré à Alep à l'ensemble du pays, tout en excluant les groupes terroristes, précise l'agence. En cas de succès, cet accord devrait être la base de négociations politiques entre le régime et l'opposition que Moscou et Ankara veulent organiser à Astana, au Kazakhstan. Le secrétaire d'État américain doit s'exprimer aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien, moins d'une semaine après l'adoption au Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant l'arrêt du développement des colonies juives. Ce discours prévu à 16h sera sans doute le dernier de John Kerry au sujet d'un processus de paix qui n'est pas parvenu à sortir de l'impasse malgré les efforts qu'il a déployés depuis son arrivée au département d'État il y a 4 ans. La résolution de l'ONU adoptée vendredi a soulevé l'indignation du gouvernement israélien qui reproche en particulier aux États-Unis de s'être abstenu et de ne pas avoir fait usage de leur veto comme ils le font d'ordinaire quand l'État hébreu est mise en cause. Et puis Barack Obama et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont effectué ensemble une visite chargée de symboles mardi à Pearl Harbor, 75 ans après l'attaque japonaise de la base navale américaine qui provoqua l'entrée en guerre des États-Unis. Jean-Roger Billon à ce micro. Bon après-midi à tous sur le continent et merci pour votre fidélité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.